Il y en a qui vivent pas sans bras, il y en a qui vivent sans. Ça dépend des gens. Allez, comme la commode. Donc voilà, on s'excuse pour le coupure, mais c'est pas grave, ça va aider. Donc on disait comme ça. On disait que quand on veut définir quelque chose, on le définit par son contraire. Pour mieux le définir et mieux le comprendre. Donc comment il a construit ce conte-là, Rabbeinu? Il l'a construit en définissant le contraire du Tam. Il l'appelait le Chacham. Et dans les nations du monde, quand vous avez dit que ah, celui-là il est Chacham, tout de suite on a du respect pour lui, on a de l'admiration même. Et Rabbeinu, on va voir que tout le long du conte, il va juste casser le Chacham. Il va l'humilier, lui montrer qu'il vaut rien, lui montrer que c'est pas ça qu'il faut faire. Et d'un autre côté, il va mettre de l'éloge sur le Tam. Alors que si vous voyez ces deux personnages-là dans la rue, vous allez sourire et dire bonjour au Chacham, mais vous allez éviter le Tam ou vous moquer de lui. Bémet, c'est quand on lit ce qui est écrit, c'est mamache, et c'est ce qu'il faisait à l'époque. Le Tam, tout le monde se moquait de lui, quand on parlait avec lui, c'était pour se moquer de lui, etc., etc. Et à la fin de la journée, le conte finit, je vous donne déjà la fin du conte, à la fin de la journée, le roi appelle les deux, il les appelle, il y a un roi qui découvre, le roi du pays découvre qu'il y a un Tam et un Chacham, etc. Il les appelle les deux vers lui, et le Chacham, il se croit tellement intelligent qu'il a peur du roi. Donc il se cherche des excuses pour pas y aller, jusqu'à qu'il remet en question même l'existence du roi, parce que finalement personne n'a vu, il a reçu un émissaire qui a pas vu le roi, qui a eu le message d'un autre émissaire, donc personne n'a vu le roi à part les gens qui sont très proches. Donc il remet en question même l'existence du roi, alors que le Tam, il s'est pas posé de question, il a dit quoi? Et le roi, il m'appelle avec plaisir, et il va, et il finit trésorier du roi, ou vice-roi, enfin il finit, évidemment le roi dans l'histoire c'est Hakadosh Baruch Hu. La trésorerie, c'est dans l'Olam Haba, c'est les récompenses à la fin. Donc on voit que ce monde, tout le monde sait que ce monde-ci, c'est Olam HaSheker. C'est le monde du mensonge. Ça veut dire que ce qui est vrai à nos yeux, ce qui est vrai aux yeux du monde, c'est souvent le contraire de ce qui est vrai. Et c'est souvent ce qui a de la valeur aux yeux du monde, c'est souvent ce qui est le contraire de la valeur, ce que de Kadosh Baruch Hu, ou de
tout ce qui est caché.
Voilà, exactement, de tout ce qui est caché ou de tout ce qui... Donc finalement, les choses qu'on respecterait, ou les gens qu'on respecterait, pas dans la Torah, les gens qui ont de la Torah, ils comprennent les choses, mais ceux qui, on va dire, dans le monde qui n'a pas de Torah, le monde Goy, on va dire, les gens qu'on respecterait ou les gens qu'on admirait sont souvent le contraire de qui on admirait dans la Torah.
Dans le monde Priloni,
ou même Goy, même dans les Rousslaretz, où tu vois que ce qui est mis en avant, c'est des réalisations qui sont, quand on connaît la Torah, qui ne sont même pas dans les mains de l'homme. La richesse, c'est pas dans les mains de l'homme. Là, à part s'il les a volés, encore pire, il faut encore moins le respecter. Mais s'il les a pas volés, c'est quelque chose qui lui a été donné depuis la naissance. Des réalisations professionnelles, c'est pas dans les mains de l'homme. Tout ça, c'est Hachem qui décide. En réalité, c'est que des pions. On est que des pions dans ces choses-là. Donc, qu'est-ce que tu respectes dans ça? C'est-à-dire, au contraire, l'homme, s'il réussit professionnellement, réussit dans la richesse, il peut être que humble, parce qu'il peut dire, c'est quoi, quand je vais au repos, ça n'a rien à voir avec lui. C'est des choses qui lui ont été données pour faire son tikkun dans ce monde. Ce matin, on a fait un shiur, on fait shiur Mara le matin, Baruch Hashem, et il y avait une question qui n'arrête pas de revenir. Peut-être que ça vaut la peine qu'on en parle un peu ce soir. Il y a une différence à savoir, tout le monde, on sait qu'on entend beaucoup parler de tikkun, de réparation, on vient dans ce monde pour réparer, c'est difficile, faut réparer. Chaque fois qu'il y a quelque chose qui arrive, c'est ton tikkun, ne t'inquiète pas, c'est ton tikkun. Tu dis, mec, ça change, ça fait mal de toute façon. Mon tikkun, c'est pas mon tikkun. Je veux dire, à un moment, je veux bien, mais ça suffit, quoi. Je suis pas venu pour à ce point-là souffrir. Non, allez, nous, en tout cas, on n'espère pas. Tout le monde, on se souhaite que des bonnes choses. Mais la vérité, c'est que tout le monde, on dirait que quand on dit c'est ton tikkun, c'est réconfortant. Mais il n'y a rien de réconfortant. Est-ce que c'est mon tikkun ou pas? C'est ma réalité. Aujourd'hui, ça fait mal. Alors tu me dis, c'est mon tikkun, ça y est, je devais être content, je devais dire, bah, c'est bon, alors c'est pas grave. Hein? Alors pourquoi? Parce que celui qui comprend, c'est quoi un tikkun? Mais celui qui comprend pas, on lui dit c'est son tikkun. Il dit, bah alors quoi, que ça change pour moi? Tout c'est mon tikkun. Tu t'es crevé un pneu, c'est mon tikkun. C'est mon tikkun. Alors quoi? Qu'est-ce que je fais dans ce monde? Alors il y a un concept comme ça qui est très facile à comprendre quand il s'agit de la parnassa, de l'argent. La Torah, elle explique que la parnassa, elle est décidée à Rosh Hashanah. Mieux encore, elle est décidée presque avant ta naissance. Mais à Rosh Hashanah, c'est redistribué en fonction de ce que tu as fait l'année dernière, ce que tu vas faire l'année prochaine. Comment tu comprends ta Rosh Hashanah? C'est un chiour sur Rosh Hashanah, c'est presque le temps, mais c'est pas encore le temps. Mais en tout cas, le principe, il est que dans la Parnassa, hein, les gens, encore une fois, qui n'ont pas de Torah, ou qui ont peu de Torah, ou qui ont moins d'Emouna, malheureusement, ont l'impression que, et c'est ce que Hachem a fait, c'est-à-dire il a conceptualisé le lien entre l'argent et le travail. C'est-à-dire un homme, il dit, je travaille plus, je vais gagner plus. dans sa tête, c'est comme ça, parce que Hachem, il a créé le lien entre les deux. C'est pas vrai. J'espère que c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai du tout. C'est pas vrai du tout. C'est une grosse erreur. Mais.
Le problème, c'est qu'on ne croit pas. On croit qu'on va travailler, qu'on va gagner.
Ouais. Bien sûr. Mais alors, en vérité, pourquoi. C'est une erreur et c'est faux. Mais pourquoi tout le monde tombe dans le panneau? On va dire à part les grands amis des Rami, mais ceux qui ont une émouna extraordinaire en Dieu, la plupart des gens, ils vont travailler, ils s'attendent à recevoir un chèque à la fin de la journée. Et quand ils ne reçoivent pas le chèque pour lequel ils ont travaillé, ils se disent que ce n'est pas normal. Alors que ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir ensemble. Mais le derrière du Olam, c'est que tu vas travailler, tu reçois ton chèque. Et a priori, si tu ne vas pas travailler, tu ne reçois pas d'argent. Même si on voit des gens qui ne travaillent pas, qui étudient Baruch Hashem dans le monde de la Torah, on peut comprendre ça. Qui reçoivent de la tzedaka parce que ça existe dans le monde juif, de l'aide de parents, de trucs machin, ils se retrouvent à payer les loyers, à se ressortir comme ils peuvent. Mais le lien, il a été créé par Hachem, c'est Hachem qui choisit ce lien-là. Même s'il n'existe pas vraiment et que c'est que du shaker, c'est un lien qui existe dans le monde. Le gars, il va travailler, il reçoit un paycheck à la fin du mois. Alors, la raison, elle est comme ça. Et les Kakadosh Baruch Hu, ils nous amenaient dans ce monde pas pour gagner de l'argent, on s'entend, ni même pour en profiter en vérité, même si ça fait plaisir d'en profiter un peu, mais c'est pas le but de ce monde-ci. Il a fait venir dans ce monde, l'exemple de Rabbeinu, il est comme un vase, vous avez dans les mains un vase qui vaut très 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 cher, mais qui est sale. Vous venez, chacun d'entre nous, on vient avec son vase, extrêmement précieux, des pierres précieuses, des trucs, des machins, mais extrêmement sale. Ou un peu sale, ou plus de sale, ou cassé ici, ou fêlé là. En tout cas, il n'est pas parfait, le vase. Chacun vient dans ce monde avec ça. Maintenant, Hachem, il te dit, voilà. Moi, je veux que ton vase soit parfait. Je veux te donner ce vase, il est pour toi. Et plus il va être parfait, et plus il va être propre, et plus tu vas en profiter. C'est pour toi. Mais la seule chose, c'est qu'il y a... Dans mon monde à moi, on peut rien faire à ce vase. Il ne peut pas bouger. Le seul monde où je peux t'amener... et que tu vas pouvoir améliorer ton vase, le réparer s'il est cassé ou fêlé, ou le nettoyer s'il est sale, c'est le monde qu'on appelle le monde d'en bas, le monde d'Asia, le Olam Asia, ce monde-ci. Ce monde-ci, c'est le seul où tu peux nettoyer le vase. Tous les autres mondes, c'est des mondes où déjà le shaker n'est presque plus là, et s'il n'y a pas de shaker, il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas d'occasion de se tromper. S'il n'y a pas d'occasion de se tromper, s'il n'y a pas de libre arbitre, il n'y a pas de moyen de réparer, parce qu'on n'a rien fait dans l'histoire. La seule raison pourquoi ce monde marche, c'est parce qu'il y a du shaker. Parce qu'il y a des façons de se tromper. Parce qu'on peut croire que Hachem n'est pas dans l'histoire. On peut croire que c'est le travail qui ramène la parnassa. On peut croire toutes ces choses-là, parce que le monde nous permet de croire ces choses-là. Et si on y croit, ben on tombe dans l'histoire. Si on n'y croit pas, hein, ben on réussit. Mais dans le principe même, un homme, il a ce vase-là. Et Hachem lui dit, voilà, je veux te donner, c'est pour toi. J'aimerais juste que tu le rêves, c'est dommage. Au marché maintenant, il vaut 4 millions. Si tu le ramènes juste, tu répares ça, ça vaut 10 à 18 millions. Si tu répares ça, ça vaut 80. Tu dis quoi? Bah vas-y, on y va. C'est dommage. Je vais pas rester avec un vase qui vaut 4 millions alors qu'en quelques années de réparation, il peut en vouloir 80 ou 90. Tout le monde comprendrait ça. Il y a des gens qui étudient 6 ans ou 8 ans d'études de médecine pour moins 80 millions. On s'entend. Donc ça veut dire qu'il y a déjà des gens qui sont prêts à donner du temps et des efforts. Pour avoir quelque chose. Là, on parle d'éternité, on parle de profit d'éternité par rapport à de connexion avec Hachem. Donc on a un vase. Ce vase-là, il a besoin de réparation. Maintenant, Hachem, il sait exactement les défauts du vase et la saleté du vase, et il sait exactement quel produit va permettre ici la réparation, ici d'en faire telle tâche, ici d'en faire telle tâche, ici d'enlever telle tâche. Il sait ça. Il sait exactement quel produit va sur telle tâche. Et Hachem, il te donne dans ce monde l'occasion d'utiliser ces produits et d'avoir accès à ces produits. Et ça peut être une fois, cette tâche-là, c'est seulement l'étude de la Torah qui va la réparer. Celle-là, c'est seulement la tzedaka. Celle-là, c'est seulement la souffrance. Il n'y a que la souffrance qui peut réparer ça. Il n'y a que la souffrance qui peut nettoyer ça.
Pourquoi?
Parce que c'est comme ça que ça marche.
Pourquoi à certains moments de la vie et pas... Pourquoi des périodes de la vie?
Ah, parce que, encore une fois, une épreuve, la Gemara nous dit qu'une épreuve ne peut être donnée... Une épreuve ne peut être donnée à un homme que s'il est capable de la surmonter. Donc il arrive que vous n'êtes pas capable à 20 ans, mais vous êtes capable à 40. Mais ça ne veut pas dire que si vous ne la réussissez pas, ça veut pas dire que si vous réussissez pas à la surmonter, que vous n'étiez pas capable de le faire. Vous étiez capable de le faire, sinon vous ne l'auriez pas eu. C'est une Gemara dans Maaseret Brachot. Qu'un homme ne reçoive des épreuves que s'il est capable. Et c'est pour ça qu'un homme, il peut pas commencer à pleurer sur le sourd de l'autre. Il ne peut pas dire, mais regarde ce qui lui arrive, regarde qu'est-ce qu'il fait Hachem, pourquoi il lui envoie. Parce que toi, c'est sûr que si tu avais reçu ce que l'autre il avait reçu, mais tu serais par terre et enterré déjà. Mais l'autre, il a les cochotes. Tu es là pour l'aider, si tu peux. Tu es là pour le soutenir, pour lui donner du kizouk, ce que tu veux. Ça, bien sûr. Mais de commencer à juger Hachem sur ce que l'autre, ce qui arrive à l'autre, c'est impossible. Parce que tu ne sais pas, tu n'es pas l'autre. Tu ne sais pas qu'est-ce que l'autre, c'est quoi le vase de l'autre, premièrement. Et tu ne sais pas, deuxièmement, quelles sont les cochotes de l'autre. Et s'il a reçu, il faut être ma'amine, que l'autre, il a le courage de réaliser. Alors peut-être que toi, maintenant, tu as un rôle dans cette réalisation. Tu peux aider l'autre à réaliser à réaliser. Parce que si tu es en face et que tu es au courant de la situation, c'est sûr que tu as un rôle dans l'histoire. Tu ne peux pas être au courant d'une situation d'un frère juif. C'est le principe d'Avat Israël. Et d'être là et de juste de te taire et de dire c'est fini. C'est très souffrant pour nous. Mais souvent, on se trompe. On se met à la place de l'autre comme si ça nous arrivait à nous. Il ne faut jamais faire ça. Parce que ça ne pourrait pas nous arriver à nous, parce qu'on n'est pas l'autre. On n'a pas le même vase, on n'a pas les mêmes kohot non plus. On n'a pas les mêmes forces spirituelles.
Et quand ça nous touche,
alors, encore une fois, quand ça nous touche, on doit se dire à nous, on doit se dire comment on fait pour aider l'autre. Si je suis touché, ce n'est pas pour que je m'accable et que je pleure pour l'autre. À quoi ça sert que ça va aider l'autre que je pleure? À quoi ça va aider l'autre que je sois triste? À quoi que ça va aider l'autre de dire Hachem, qu'est-ce que tu fais franchement? À part si tu pries pour l'autre, tu dis Hachem, s'il te plaît, aide-le, oui, d'accord. Ou tu viens et tu aides l'autre directement avec tes cochotes à toi. Mais simplement te plaindre de la situation de l'autre, c'est en vérité une hypocrisie monumentale. Parce que toi, tu as plus de pitié pour l'autre qu'Hachem. Hachem, c'est son père, c'est celui qui a le plus de pitié pour nous de tout le monde entier. Et pour la mouche, il a pitié, Hachem. Pour les Égyptiens, il a eu pitié. Il a dit aux anges de ne pas chanter quand ils étaient en train de mourir dans la mer, alors qu'ils nous avaient détruits pendant des années. Alors il ne va pas avoir pitié de son fils qui est juif. En ce moment, Beyrouth, ouais. Oui, mais bien sûr, mais vous rigolez. Hachem, il a pitié de ses créatures beaucoup plus que des milliards de fois plus que nous, ce qu'on pourrait ressentir pour n'importe qui d'autre, même les gens les plus proches de nous. Alors lui, il sait ce qu'il fait. Ben, que Kadosh Baruch Hu, il sait ce qu'il fait. Maintenant, la chose, elle est comme en nous. Alors, il y a un tikkun, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Hachem, il sait qu'est-ce qu'il va rendre, qu'il va nettoyer ton vase et qu'il va le rendre propre et qu'il va le réparer. Et ça dépend des moments, et ça dépend des événements. Et ça dépend, et ça va dépendre de la réalisation. Maintenant, la souffrance fait partie de ça. La Gemara dit que la souffrance a expié les fautes. Alors là-bas, la Gemara, elle demande, est-ce que c'est des souffrances qui sont des souffrances d'amour ou pas d'amour? Alors un homme qui souffre, la Gemara, elle dit tout de suite, il doit dire pourquoi je souffre. Alors une fois qu'il cherche, il fait tchouva, et au bout d'un moment, il réalise que j'ai fait tchouva sur tout, alors qu'est-ce que je fais maintenant? Si tu as fait tchouva sur tout, sache que la Gemara elle dit c'est maintenant tu souffres parce que tu fais bidou le Torah, tu n'étudies pas assez la Torah. Ok, alors si j'étudie, j'ai fait plus bidou le Torah, qu'est-ce que je fais maintenant? Alors la Gemara elle dit si tu souffres encore, c'est parce qu'Hachem t'aime. Ça veut dire que, sérieusement, ça veut dire qu'est-ce qui me. Et la souffrance, encore une fois, la souffrance c'est pas forcément la maladie, c'est pas forcément. La souffrance, je vais vous dire, la pire souffrance c'est dans la tête. C'est dans la tête la souffrance. C'est-à-dire qu'un homme, il peut être, tu peux avoir l'impression que il mériterait d'être triste, mais le gars, il a des forces, Baruch Hashem, de tenir. Et un autre, il a rien dans la vie, tout va bien, il a des enfants en santé, il a une piscine, même si tu veux, et lui, tu vois, charbert toute la journée. Et sa femme, n'en parlons pas. Et ses enfants, n'en parlons pas. C'est le guinam chez lui. Mais il a tout, il a le compte en banque, il a la voiture, il a le chauffeur, tout ce que tu veux. Mais dans sa tête, ça marche pas. Hein? Pourquoi ça marche pas? Pourquoi ça marche pas dans sa tête? Parce que son âme, elle sait qu'il fait pas son tikkun. Vous savez ce qui réconforte le plus? C'est que quand vous. Rabbeinu dit, c'est quoi la souffrance? La souffrance, c'est le manque de da'at. C'est de pas savoir ce que tu fais. De pas savoir pourquoi tu souffres. Mais quelqu'un, il sait, on lui dit, pourquoi ça réconforte de dire si tu fais ton tikkun? Parce que maintenant, il dit, je fais ça pour quelque chose. Je souffre pas pour rien. C'est pas Hachem, il est en train de jouer avec moi. Hachem, il est pas en train de jouer au bi. Il sait ce qu'il fait. Ah, c'est parce que je vais récupérer quelque chose à la fin, parce que je veux me nettoyer, parce que Hachem il est même. Alors ça soulage. Automatiquement, ça soulage un homme. Tu vois ce qui se passe aujourd'hui, les bidoudes, les avions, tout ça. Le gars qui n'est pas dans la Torah, tout ça, il devient fou. Celui qui ne croit pas en Hachem, qui est un directeur du monde et qui gère chaque seconde, mais il devient fou. Tous les jours, il y a des nouveaux trucs qui arrivent. On ne sait pas ce qui arrive demain. Tu deviens, tu n'as plus rien à faire. Casse-toi, mets-toi sous les couvertures et attends que ça passe. Tu peux attendre longtemps parce que ça fait déjà 5 mois. Ça veut dire, c'est une réalité. Ça veut dire qu'aujourd'hui, et Hachem fait exprès. Pourquoi? Pour qu'on exerce notre Emouna. Parce qu'en vérité, le secret de Rabbeinu, c'est que ce vase-là, c'est la Emouna. C'est ça son vase. Ce qu'il a réparé dans ce monde, c'est ça Emouna.
C'est le plus dur.
C'est le tout. C'est l'essentiel. C'est-à-dire qu'un homme qui est avec Ayana Emouna, il peut avoir toutes les souffrances du monde, il est tout le temps heureux, il est tout le temps content, il s'énerve jamais, il est tout le temps bien. Pourquoi? Parce qu'il a de la Emouna. Et il peut ne pas souffrir, bon, Hachem, ça ira encore mieux. Mais quelqu'un qui a de la Emouna, il sait que c'est des souffrances d'amour, c'est plus rien d'autre. Parce que déjà, il ne les prend pas comme des souffrances, il les prend Be'ahava. Dès que tu prends une souffrance Be'ahava, la Gemara, elle dit, tu viens de justifier l'existence de la souffrance. Parce qu'elle a fait son travail. Tu as accepté Be'ahava, c'est ta preuve que tu prends Hachem. Elle a fait son boulot. Le problème, il est que le gars, il prend une souffrance et il dit pourquoi et comment moi et pourquoi moi. Celui-là, là, avec moi, il dit dommage. Tu souffres et ça sert à rien. Donc, c'est-à-dire, non seulement tu souffres.
Tu peux dire ton âme est ta mal.
Ah, c'est pas la même chose. Ton âme est ta mal. Tiens mal, bien sûr, tiens mal. Mais ton âme est ta mal, c'est déjà une épreuve des mondes. Le gars, il dit non, mais pourquoi? Mais ça ne devrait pas m'arriver à moi. Il remet en question, tu comprends? Alors, le gars qui fait ça, tout de suite, il a marre, il dit dommage. Non seulement tu souffres, mais en plus, tu nettoies même pas, tu fais pas ton tikkun avec. Parce que tu l'omets quand même bien. Donc dans l'idée de tout ça, ça veut dire qu'un alors pourquoi je vous ai parlé de cette histoire-là? Parce qu'en vérité, le travail aussi, c'est un tikkun. C'est-à-dire en vérité, il est décidé combien tu dois mettre de labeur dans ton travail. D'heures, d'efforts. Alors Hachem, il nous connaît. Et il sait que s'il n'avait pas mis la carotte au bout du bâton, on ne serait jamais allé auprès du bâton. Qui va aller travailler s'il reçoit l'euro million? Jamais personne va aller bosser. Même le meilleur métier du monde, il va s'asseoir, étudier la Torah. Voilà. Donc c'est le gars qui n'a pas besoin d'argent. Le gars...
Mais on aurait été habitué
à faire ça. Comment? Sans argent? Qu'est-ce que ça veut dire?
Dès le départ, on avait été habitué à vivre sans argent.
On n'aurait pas travaillé. Oui, on n'aurait pas travaillé.
Dans un système.
On n'aurait jamais travaillé. Pourquoi un homme il se lève travailler? Parce qu'il y a de l'argent à bout de l'école.
Pas que ça. Moi, ça qui a fait longtemps que j'ai pas monté.
Non mais tu peux sortir. Non, excuse-moi, quelqu'un qui a la santé, l'argent.
Ah, qui a la santé.
Oui, bien sûr, la santé c'est aussi une bracha. On ne parle pas de ça. Qui a la santé et l'argent, il va aller travailler. Jamais d'avis, il va faire le tour du monde, il va kiffer, il va machin. Il va pas travailler. Il va pas travailler. Donc ça veut dire quoi? Hein? C'est quoi la question? Hein?
Le système est fait comme ça.
Mais il aurait ça. Mais le système.
Mais on aurait pu.
C'est
comme ça que c'est venu.
Non, on aurait pas pu. Alors voilà, oui, ça aurait pu, on aurait pu sans argent. Un autre bâton, mais ça aurait été un gain. L'argent ou autre chose, ça aurait été la même chose. Ça veut dire ça aurait été un gain. Maintenant, il a mis l'argent. L'argent, c'est une monnaie, ça pourrait être du troc, ça peut être n'importe quoi. C'est une façon d'acquérir des choses que tu n'as pas.
Moins besoin aussi.
Pas forcément. Le besoin, il est créé au fur et à mesure. Mais c'est le nerf de la guerre. Alors, mais le principe, pourquoi c'est le nerf de la guerre? Pourquoi c'est le nerf de la guerre? Parce que Hachem, il veut faire son tikkun à la personne. Donc maintenant, elle a besoin de travailler tant d'heures. Alors il sait que maintenant, pour le faire travailler tant d'heures, parce que ça fait partie de son tikkun, c'est la façon de nettoyer telle partie du vase, alors il va mettre tant d'argent au bout. Mais en vérité, le gars, moi je connais des gens qui vivent comme ça, et en vérité, le gars à l'argent, il aurait reçu de toute façon. Ou plus précisément, la bracha de l'argent, il aurait reçu de toute façon. C'est-à-dire ce qu'il a fait avec l'argent. Il a fait un Shabbat, il a fait des fêtes, il a sorti ses enfants, il a rendu d'une certaine façon heureuse sa femme. Tout ça, il aurait réussi de toute façon. Parce que ça ne dépendait pas de son travail. Mais Hachem, il voulait qu'il travaille, donc il l'a lié aux deux. Maintenant, la beauté, c'est qu'il y a des façons de bypasser le système. Il y a des façons de contourner le système. Comment? Lorsque tu nettoies avec autre chose que les souffrances ou autre chose que le travail. Ça veut dire, un homme, il travaille sur sa émouna. Et maintenant, il va prendre sur lui d'étudier plus de Torah. Normalement, il travaille 12 heures. Et il va dire, maintenant, je vais étudier 2 heures, je vais travailler 10 heures. La souffrance qu'il a mis, qui n'est pas une souffrance, en vérité, c'est un cadeau. Mais Hachem, il considère ça comme une souffrance parce qu'il aurait pu faire autre chose pendant ce temps-là. Il aurait pu aller être à la piscine ou à la plage, alors qu'il aurait été en train de travailler en vérité, ça aurait été plus difficile. Mais lui, il considère ça comme s'il avait fait quelque chose de plus facile et de plus kiff, alors que c'est très kiffant d'étudier, mais on va dire. Donc il a pris sur lui de venir étudier, il a pris sur lui de venir s'occuper de la Torah d'Hachem, qui est la fille d'Akadosh Baruch Hu, qui est la volonté d'Hachem. Donc à partir du moment où il a fait ça, Hachem, il dit ok, tu as fait ça, alors je t'enlève tant de souffrance. Voilà, tiens, 2 heures, ça contient 10, 15 heures de souffrance, voilà, je les enlève. Et je prends l'énergie, non seulement tu as gagné la Torah, que c'est pour l'Olam Haba, et que tu as gagné de connaître Hachem, et que tu as gagné je sais pas combien de trucs, des millions, ouais. Et en plus de ça, il t'enlève, dit la Gemara, de la souffrance. Il t'enlève du tikkun. C'est-à-dire, il utilise la Torah et les mitzvot et les ma'asim tovim pour faire le tikkun que la souffrance ferait normalement. comprenez? Ça veut dire qu'en réalité, encore une fois, le nerf de la guerre, c'est ni l'argent, ni le plaisir, ni les maisons. Le nerf de la guerre, c'est le tikkun. C'est ça le nerf de la guerre. Aux yeux d'Hachem, c'est ça le nerf de la guerre. Ce qu'on est venu faire ici, c'est notre tikkun, notre réparation. Et pour faire notre réparation, on a besoin de faire la Torah, les mitzvot, des ma'asim tovim. Ou si jamais on n'est pas assez dans ça, parce qu'on n'a pas assez de emouna pour croire que c'est ça le nerf de la guerre, alors il te fait passer par le travail, et les problèmes avec lui, avec elle, et avec ça, et le shalom bayit, et les problèmes des enfants, et tout ça. Tout ça, c'est le... Mais ça, d'ailleurs, plus un homme, il va investir de son temps et de son énergie et de ses souffrances, entre guillemets. Et d'où on apprend ça du Zohar Kadosh? Le Zohar, il dit, de quel droit les Lévim, ils sont sortis d'Égypte? Les autres, on comprend, ils ont travaillé pour sortir les Neshamot. Pourquoi ils sont sortis d'Égypte? Pourquoi ils sont partis en Égypte d'abord? Pourquoi on doit tous partir en Égypte? Parce que Adam Arishon, il avait éparpillé quelques Neshamot, même plusieurs. Et Hachem, il a dit, c'est quoi, je suis gentil, je vous les mets tous en Égypte, vous descendez, 210 ans, vous travaillez, vous souffrez. La souffrance, il va faire le tikkun de ces Neshamot. Et vous allez les sortir avec vous, et ça, tout est terminé, vous recevez la Torah, vous rentrez en Israël. C'était le plan, même si il savait que ça allait se passer d'autrement. Mais c'était le plan initial, on va dire. Ouais.
Donc, pourquoi maintenant, aujourd'hui, moi j'ai une question. Pourquoi aujourd'hui on voit plus de souffrance qu'avant?
On s'approche.
Il faut déjà les femmes, elles travaillent, donc c'est une souffrance pour les femmes de travailler.
Bien sûr.
Avant, elles étaient à la maison.
Ouais.
Que les maladies, on ne les voyait pas autant, c'est vrai. Ouais. Avant, on ne voyait pas autant les maladies pour aujourd'hui.
Ouais. Je vais vous dire pourquoi. Parce que Hachem, il est en train d'accélérer le processus. Et on est à la fin. Donc aujourd'hui qu'on est à la fin des choses, si on approche, il faut finir le tikkun. Donc plus on va souffrir vite, et moins on a de chances de refauter pour recréer un autre tikkun. Parce que la faute, elle crée un autre tikkun. Mais si tu peux revenir pour le tikkun de l'année dernière, mais, ou de ton autre vie, mais là, tu es en train de refaire des trucs qui vont nécessiter un tikkun. Donc plus vite, on tape la souffrance, on tape le... On s'en prend, on va dire, plus vite on finit l'histoire et plus vite c'est terminé. Donc on est à la fin. Donc c'est sûr que les souffrances. La Gemara a dit que les tzadikim, ils voulaient pas voir la fin. Ils voulaient pas vivre dans notre génération. Maintenant on comprend. Jusqu'à quelques mois, je comprenais pas trop. Mais là, je crois qu'ils ont vu des trucs de fou. Et c'est pas fini. Ils voulaient pas. Ils ont dit non, on veut pas. Nous on est bien là où on est. Mets-nous en 1900, mets-nous en 1800. Mais dans les 2020, on veut pas venir. On veut pas être là. C'est une génération que c'est trop. Les tzadikim, on parle pas des petits là, des tanaïm. Le seul qui a dit oui, c'était un aveugle. Il était tana, il était assis. Moi, je veux bien aller, ça ne me dérange pas. De toute façon, je suis aveugle ici, là-bas, ça ne change rien. Mais c'est pour vous dire à quel point ils ont compris que notre génération, c'était une génération qui allait prendre sa race. Mais c'est pas grave. Parce qu'à la fin de la journée, on a les kohot aussi pour tenir. Et on n'a pas connu autre chose non plus. Donc on est dans cette vie. Les femmes qui sont nées dans une génération, c'est le travail, c'est toute leur vie, c'est le travail. Ils ont vu leur mère, leur... Hein? Les mères déjà ça travaillait, peut-être les grands-mères. La plupart des mères elles travaillaient. On a déjà trois générations.
Non mais attends, ça dépend ce qu'on appelle travailler. Le travail à la maison c'est la même chose, c'est le travail.
Ouais, d'abord oui c'est vrai.
Donc vous êtes plus libre. Donc t'es plus libre aujourd'hui qu'avant.
Moi j'aurais dit. Mais amen. Mais moi j'aurais dit que c'est pas par rapport au travail. Moi j'aurais dit que la vraie souffrance.
Non, c'est l'égalité des femmes. Ils veulent l'égalité.
Non.
Ils voulaient l'égalité.
Oui. La vraie. Non, mais pas seulement ça. Pas seulement ça. Moi je crois que la vraie souffrance d'aujourd'hui. Ça va? Bonjour. Tu peux t'installer dans le salon. Alors, donc on disait que la vraie.
Directement dans la chambre.
Donc la vraie souffrance d'aujourd'hui, moi à mon avis, c'est pas la question de travailler ou pas travailler ou de la vraie souffrance d'aujourd'hui, selon moi, hein, je peux me tromper, mais la vraie souffrance d'aujourd'hui, c'est une souffrance du nefesh, c'est la neshama qui crie. Elle est fatiguée, on est fatigué. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a deux choses. Le monde a créé une telle rapidité d'acquisition des choses qu'il y a un manque permanent de tout. On est toujours en manque de quelque chose. On est tout le temps, on manque quelque chose. Il manque, on manque. Il y a toujours quelque chose qui nous manque. Et ça, c'est insupportable pour la Neshama. La deuxième chose, c'est que non seulement le monde il a créé un manque, mais nous-mêmes, parce qu'on est revenu tellement de fois, on est fatigué, on est émotionnellement fatigué, tout nous épuise, parce que, excuse-moi, mais si tu demandes aux femmes d'aujourd'hui de prendre le travail des grand-mères d'il y a 100 ans, elles te diraient jamais de la vie. Faire les machines, la lessive, le ménage, le truc, laver la main, truc. Elles te diraient, mais je préfère mille fois travailler aujourd'hui. Mais ouais. Il n'y avait pas de machine, c'est ça, je te dis. Nettoyer la truc, sortir au bain, revenir, faire la cuisine de 10 enfants, machin. Nettoyer les couches. Il fallait arrêter de nettoyer une couche aujourd'hui, tu nettoies une couche, tu deviens fou. Nettoyer les couches eux-mêmes, etc. Tout ça, c'est une grosse souffrance. Alors, encore une fois, ça, tout ça, c'est une grosse souffrance pour les. Merci. C'est une grosse souffrance pour tout ça. Mais en réalité, aujourd'hui, la souffrance, il est double. Un, le monde nous crée des manques. Tout le temps, il y a toujours un nouveau truc qu'il faut avoir, il y a toujours une nouvelle. Celui qui vit dans ce monde-ci, il est tout le temps. Et on voit nos enfants. Nous, on est insatisfaits, mais nos enfants, c'est puissance 1000. Puissance 1000. Les enfants et leurs enfants, j'espère que le match est arrivé avant, mais leurs enfants, ce sera encore pire. On est de l'insatisfaction en insatisfaction, d'insatisfaction en insatisfaction. C'est
insupportable. Ils reçoivent, ils veulent le lendemain.
Mais quoi? En train de manger, ils te disent qu'est-ce qu'il y a après? Ils n'ont pas fini de bouffer encore. Et qu'est-ce qu'il y a après? Ils sont devant là, mais mange, profite. Mais le pire, c'est pas qu'ils veulent ce qu'il y a après, c'est qu'ils profitent même pas de ce qu'ils ont maintenant. Le problème de celui qui veut toujours plus, c'est qu'il profite pas. Il profite jamais, le gars. Il est toujours en manque. Comme un drogué, il profite jamais. Ça, et c'est une drogue. Et c'est une drogue. Et ça, c'est un vrai malheur. Et ça, c'est notre malheur de la génération.
Pourtant, on dit que c'est Hachem qui fait tout ça. Pourquoi?
Parce qu'on a un choix. Tu peux vivre sans ça. Tu peux déconnecter de ça. Tu peux ne pas vivre.
Non.
Tout vient du ciel, sauf la crainte du ciel. Tous les choix qui te rapprochent ou t'éloignent d'Hachem, ça s'appelle un choix. Et tu sais, il est entre tes mains et seulement entre tes mains. Hachem, il sait le choix que tu vas faire, par exemple. Mais c'est entre tes mains. Il sait. Ça ne veut pas dire que c'est lui qui va le faire. C'est vous qui allez le faire. C'est vous qui allez le faire. Dès qu'il y a un choix, est-ce que ce choix-là qui a un choix. Pas par exemple, je vais vous dire un exemple. Je veux sortir au restaurant avec ma femme ce soir. Si Halavi ou Bassari, ou je sais pas moi, on va dire on a choisi Bassari. Donc, aller dans tel resto ou tel resto, c'est pas moi qui vais choisir. Par exemple, si je rentre dans le resto, c'est pas moi qui vais choisir où je vais m'asseoir. Ça fait partie de mon tikkun. Il faut que je m'assoie là, que je sois. Même ça fait partie du tikkun. Parce qu'il y a une chaise et je vais m'asseoir sur la chaise, je vais faire une braca sur le truc, ça va faire des sautes de la chaise, des sautes de la nourriture, tout ça, c'est pas moi qui décide. C'est bon, ça fait partie de mon tikkun. Hachem, il sait ce qui se passe dans mon vase. Moi, je sais pas ce qui se passe. C'est que Hachem qui sait, les tzadikim ils savent. Par contre, ce soir, est-ce que je vais choisir de manger dans un restaurant Méhadrin ou Rabanout? Ça, c'est mon choix. Ça, c'est mon choix. Ça, ou est-ce que j'ai le choix maintenant? J'ai deux restaurants. Ça, c'est Méhadrin, ça, c'est Rabanout. Si c'est mon choix. C'est pas Hachem qui choisit pour ma place. Maintenant, une fois que j'ai choisi où je vais m'asseoir, ça, c'est pas mon choix. À qui je vais m'asseoir? À laquelle assiette je peux manger? C'est pas mon choix. Ma fourchette, c'est pas mon choix. Tout ça, c'est pas mon choix. Mais le choix qui me rapproche d'Hachem ou qui m'en éloigne, aujourd'hui je vais aller étudier ou je vais pas aller étudier, bah dai, c'est ton choix à 100%. Ou je vais faire du lachon d'arras, je vais pas faire du lachon d'arras, c'est 100% ton choix. C'est pour ça que tu as du mérite. C'est pour ça qu'à la fin de la journée tu as du mérite. Mais maintenant, pour ce qui est par exemple le travail, ça fait partie du tikkun. Donc il faut que tu ailles à Tel Aviv aujourd'hui, bah tu vas aller, que tu veuilles ou que tu veuilles pas, c'est décidé. C'est-à-dire c'est déjà dans l'outil, ça fait partie du tikkun. Donc voilà, ça c'est une chance très importante à comprendre. Maintenant, quand on a compris ça, on comprend qu'en vérité, la part d'Assa, hein, c'est un moyen d'acheter les produits pour nettoyer et réparer ton vase, c'est tout. Donc, c'est pour ça que c'est déjà donné à l'avance. Parce que ton vase, on le connaît, les produits, on les connaît, il faut bien de l'apport pour les acheter. Donc, il faut de la part d'Assa, donc c'est connu aussi déjà, ça dépend pas de toi. La seule question, elle est, est-ce qu'avec cette part d'Assa là, tu vas réparer ton vase? Si tu vas pas réparer ton vase, Hachem il te dit, je garde la part d'Assa pour moi. Elle est en banque, elle est avec ton nom, c'est à la banque. La question c'est, est-ce que tu as le droit de la sortir ou pas? Si maintenant tu es là pour faire ton tikkun, tu es là pour faire ta réparation, tu es là pour et tu contrôles tous les éléments qui sont partis de ton choix, et tu es fait pour faire les bons choix, il dit ok, alors maintenant, tu as besoin de temps. Alors il y en a que pour faire leur tikkun, malheureusement, l'eau à l'énou, il y a quelqu'un dans la Rabbi Chanina dans la Gemara, il était pauvre. Il a dit Hachem, j'en ai marre, je mange du karoub et j'en peux plus. Rabbi Chanina, vous imaginez, mais c'est-à-dire même les grands tzadikim qui étudiaient, qui étaient complètement à Torah, eux-mêmes ils ont dit, ah ça suffit, c'est trop. C'est pas possible plus que ça. Je peux pas être aussi pauvre que ça. Alors Hachem, il a dit, ok, si tu veux, je peux refaire le monde pour toi. Il lui dit, quoi, le monde? Genre, maintenant? Il dit, non, on refait depuis Bereshit. Il lui dit, bon, combien il me reste à vivre? Il lui a dit, tu as vécu plus que tu... Plus qu'à la moitié. Il dit, bon, c'est bon, ça va, c'est pas la peine d'en faire le monde. Ça veut dire que Hachem lui dit, tu veux que maintenant ton tikkun y change? Eh bien, il faut réparer depuis le début. Parce que depuis qu'Adam Rishon il a fauté, maintenant le tikkun de chacun, il est déjà... Jusqu'à la fin des temps, c'est déjà programmé. Le vase, il a été cassé. Le vase, il a été cassé au moment de la première faute. Donc maintenant, ça y est, c'est que la continuation de la réparation. Donc, soit on revient et refait le monde. Et Hachem, il a fait ça. Il a refait 6 fois le monde. Celui-là, c'est le 7e. Donc, il a fait 6 fois le monde déjà avant de faire celui-là. Donc, il avait déjà un processus en place. Maintenant, on s'est un peu éloigné du sujet, mais c'est pas grave. C'est une agdama importante. Mais pour dire, voilà, maintenant, quelqu'un qui veut faire son tikkun, la trait de caractère du tam, elle est si importante. Parce que quelqu'un qui n'est pas tam, il ne peut pas faire son tikkun. Quelqu'un qui n'est pas simple, c'est-à-dire quelqu'un qui n'accepte pas les choses avec simplicité, avec émet, avec foi, il ne peut pas faire son tikkun. Quelqu'un qui est chacham, il remet tout en question tout le temps, et il ne fait rien à la fin de la journée. Il fait juste remettre en question. Donc même les souffrances qu'il reçoit, il les remet en question. Il est tout le temps en train de se poser les mauvaises questions. Vous savez la différence, Rabbeinu nous dit, tout le monde se pose des questions. Il y en a qui se posent les bonnes, il y en a qui se posent les mauvaises. Les bonnes, c'est quoi? C'est les questions que tu poses sur toi-même. Comment je fais? Qu'est-ce que Hachem veut de moi? Pourquoi Hachem me fait ça? C'est pour que je... Qu'est-ce que j'ai à réparer? Qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois m'améliorer? Ça, c'est les bonnes questions. Les mauvaises questions, ah, pourquoi tu m'as fait ça? Ah, pourquoi le monde c'est comme ça? Ah, pourquoi maintenant il y a le virus? Ah, pourquoi il n'y a plus d'avion? Ah, pourquoi... Ça, c'est le plan Hachem. Ça, c'est non, tu ne concernes pas à ça. C'est pas, tu poses, ça, c'est des questions qui servent à rien. Ça, c'est le Chacham. Le Chacham, il veut tout comprendre. Mais pourquoi t'as fait ça? Mais pourquoi c'est comme ça? Mais pourquoi ça arrive comme ça? Mais le Chacham, on va voir dans le compte. Enfin, on n'a pas vraiment le temps, mais je vous donne un peu des idées. Dans le compte, il va faire 18 métiers. Il n'est jamais satisfait de rien. Il va être joaillier, après, il va être médecin. Après, il va commencer dans la mode. Il va être attiré par des métiers. Et comme il est tellement Chacham, au lieu de faire 6 ans d'études pour devenir médecin, il va faire 6 mois et il va devenir médecin. Il est le meilleur des médecins. Mais il n'est jamais satisfait. Pourquoi? Parce que c'est pas Dieu. Donc il est tout le temps en train de dire, ah ouais, mais regarde, lui il a pas guéri. Et lui il a guéri, mais il me dit pas merci à moi, il dit merci à Dieu. Donc finalement il est tout le temps insatisfait. Au bout d'un moment, il se croit tellement chacham qu'il veut plus être avec les autres. Il se dit, celui-là il mérite pas que je lui parle, l'autre il mérite pas que je. Il se tue, c'est-à-dire il vient en enfer. Mais en réalité, dans le potentiel, on voit au début du conte, l'histoire elle commence, il y a 2 enfants. Ils sont dans un cheder, ils sont dans une garderie. Ils sont ensemble. Il y en a un chacham, il y en a un tam. C'est-à-dire qu'ils sont dans la même garderie, ils ont 2 pères qui sont riches, ils ont les mêmes, on va dire, les mêmes bases, voilà. Mais juste, la différence, il dira, ben non, il y en a un qui est chacham et un qui est tam. A priori, tu dis, le chacham, il va réussir dans la vie, le tam, c'est déjà bien s'il arrive à manger, c'est déjà suffisant, ouais. Tout de suite, on voit déjà des enfants, on voit qu'il y a des potentiels, on a des grandes aspirations pour eux, d'autres, on dit, bon, celui-là, ça va, s'il tient bon dans la vie, c'est déjà bien, ouais. Mais en vérité, on comprend pas du tout, parce qu'on voit pas, on n'a pas les yeux d'Hachem, les vrais. Nous on voit un enfant quick et intelligent dans une classe, on dit celui-là il va réussir, c'est sûr. Et l'autre on le voit un peu truc, on dit bon celui-là, le pauvre. Ouais, alors que c'est pas du tout comme ça que ça marche. C'est pas du tout comme ça. Il dira, ben nous celui qui est rare, peut-être qu'il va réussir aux yeux des autres, mais dans sa vie personnelle, sachez qu'il va se planter complètement. Son mariage, c'est impossible quand tu es chacham et que tu crois que tu as tout compris et que tu veux tout comprendre et que tu remets tout le monde en question sauf toi-même, jamais tu vas réussir. L'éducation des enfants, jamais tu vas les réussir. Ta parnassa, ça dépend pas en vérité de chacham. Il y a des gens qui ont fait des PhD et des doctorats et ils sont moins payés que le gars qui a pas fait d'études et qui s'est même pas signé son. Moi je connais un gars, il a une rue à Los Angeles. Il s'est pas signé. Il signe avec une croix. Une rue, il a acheté à Los Angeles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça dépend pas. C'est pas. Le gars, à chaque fois, il appelle des rabbanis pour des brachot. Il rentre, il sent les choses. Il dit celle-là oui, celle-là non, celle-là j'achète, celle-là j'achète pas. Il sent, il est comme ça, Hachem lui a donné. Qu'est-ce que tu vas faire? Et quand il va chez son avocat, il dit mais au moins apprenez à signer. Il dit qui te dit que moi, si j'apprends à signer, je gagnerai plus d'argent? Ça marche comme ça, je continue. Pourquoi je vais changer le truc qui marche? Ouais, il fait des croix pour signer. T'imagines à quel point? Et le gars, il a acheté. Il y a mon de Brevois qui a perdu son grand-père sur les Nouis Mato. Meir, je sais pas c'est quoi son nom de son père. Bon, en tout cas. Et lui, il m'a dit, sa qualité c'était la Tmimout. Il était très très pauvre, c'est une grosse famille, enfin, ils étaient beaucoup d'enfants. Il était extrêmement pauvre, il avait une femme et des enfants. Il tenait pas, au Maroc, il tenait pas le coup. Et il m'a dit un jour, il est parti, sorti dehors. Il a dit, Hachem, ça suffit. Il faut que tu m'aides, c'est plus possible. Un minimum, donne-moi à manger, donne-moi à manger à mes enfants, je peux plus. Il a dit, à partir de ce moment-là, tout a tourné. Il a fait une cacaillerie, il a acheté 2 clous, il a vendu 4, il a vendu 4, 6, 8, 10 trucs, il est devenu la plus grosse cacaillerie du monde. Il est une grosse richesse. Et ses enfants, ils ont repris le truc, et encore aujourd'hui. Et il a dit lui-même, j'ai commencé avec 2 clous. J'ai vendu 2 clous, j'en ai acheté 4. À partir de cette prière, tout s'est ouvert. Mais je n'ai jamais posé les mauvaises questions. J'ai accepté que c'est Hachem qui gère le jeu. J'ai accepté, voilà, je vends, j'achète. C'est pas bon.
Ouais, mais Dieu nous fait tourner autour du pot pour arriver à la fin au même résultat.
Ça veut dire pas, parce que ce que veut Hachem, c'est que tu tournes autour du pot. Il veut pas du résultat, il s'en fiche du résultat. Le résultat, c'est la carotte. Riche ou pas riche, ça change rien pour Hachem. Ce qu'il veut, c'est que tu fasses le tour. Donc si maintenant tu fais le tour, il fallait que tu sois riche, et ben tu vas être riche. Si pour faire le tour, il fallait que tu sois pauvre, ben tu vas être pauvre. Si pour faire le tour, il fallait que tu sois avec d'autres souffrances, et ben tu aurais eu d'autres souffrances. Le but, c'est de faire le tour. Le but, c'est de finir l'histoire. Donc maintenant, Hachem, tout le reste, c'est que des paillettes. C'est que le décor du film. L'essentiel, c'est le rôle principal. C'est toi. Toi qui fais le chemin. C'est le chemin que tu vas parcourir dans ta vie. Et chacun comme ça. Donc en vérité, Hachem, il met en place tout le système pour que ça marche. Et dans le conte, on voit... Hein, c'est ce principe-là que le Raham, il pose des questions sur tout, il se remet en question jusqu'à qu'il va finir au Guéhinam. C'est-à-dire, il va finir là-bas et le Saber Pem, il va le manger. Et le Tam, il était depuis son enfance Tam, tout le monde savait qu'il était très simple, mais les deux pères, ils vont faire faillite. Il va faire plein de métiers, il va pas se marier, il va dire attends, je vais d'abord gagner mon argent pour se marier, et finalement, il dit quand j'ai trop d'argent, pourquoi je vais me marier. Enfin, il se pose des questions toute la journée, il a rien fait de sa vie. Et l'autre, il a dit, bon, mon père, il s'est pas marié, je vais aller marier, il a plus d'argent, je vais aller travailler. Il est parti apprendre un métier de cordonnier, il était même pas bon, Rabbeinu, il faisait des chaussures à 3 coins. Et il était le moins cher de la ville. Ouais, là, c'est... Et à chaque fois, sa femme lui dit, mais je comprends pas, pourquoi tu es le moins cher? Il dit, regarde, moi, ça me coûte tant, de lacer, ça me coûte tant de cuire, je gagne tant à la fin de la journée, ça me suffit, on mange, on boit, on est content. Alors il dit, mais regarde l'autre, il vend plus. Il disait, ma c'est chez l'eau, il disait, ma c'est chez lui. Ça, c'est ce qu'il fait lui, c'est ce qu'il fait moi. Qu'est-ce que tu me mets? C'est pas son petit coup, c'est pas le mien. Moi, voilà ce que ma chérie m'a donné. J'ai essayé. Et Rabbeinu dit, il a étudié longtemps en plus la cordonnée pour savoir faire des chaussures à 3 coins. Ça veut dire, c'était pas un truc facile pour lui. Il a fait un chaussure à 3 coins, c'est ce qu'il sait faire. Il est content avec ce qu'il fait. Les grands tzadikim, ils étaient capables de faire des choses extraordinaires. Vous savez que les grands tzadikim, ils étaient cordonniers. Où ils étaient bouchés, où ils avaient des métiers. Et ce qu'ils faisaient, ils répétaient des versets de Torah toute la journée, en faisant leurs chaussures, etc. Et le Baal Shem Tov HaKadosh, il dit que quelqu'un qui fait ça, il est capable d'élever des mondes, que même quelqu'un qui étudie la Torah, mais qui n'est pas dedans vraiment, il n'est pas capable. Juste, il lui travaille, mais il est en train de penser à des versets, des noms d'Hachem, des choses comme ça. Des très grands tzadikim. Enoch, dans la Torah, il était cordonnier. Ça veut dire que c'est des très grands tzadikim, des très niveaux, et il travaillait. Parce qu'il savait qu'il y avait un tikkun, il réparait la chaussure en même temps les nitsotsot de la chaussure, en même temps les nitsotsot qui est autour d'elle, et il faisait des tikkunim toute la journée. Donc, la plupart des tzadikim cachés, c'est des gens qui sont pas des grands rabbanim connus, des gens simples. Mais encore une fois, Rabbeinu il fait très clairement définir que le simple il est pas bête, c'est un très grand chacham. Vous savez c'est quoi la plus grande chokhma du simple? C'est qu'il ment au yetzera. Ça veut dire quoi? Ça veut dire il a mal, il souffre, mais il dit oh, c'est pas vrai, je souffre pas, je vais très bien. Mais tu souffres. Il dit non, c'est pas vrai, je souffre pas, je vais très bien. Mais tu as mal. Non, j'ai pas mal. Mais tiens, non, j'ai pas mal. J'ai pas mal.
Il n'y a pas beaucoup de gens comme ça.
Ah ben ouais, mais c'est une qualité, c'est le top de la qualité.
Oui,
je vais vous dire à tel point, il dit que le tam, il avait que du pain et de l'eau à la maison. Shabbat le soir, il disait à sa femme, chérie, donne-moi la soupe s'il te plaît. Elle lui amène le pain et l'eau. Il dit, wow, qu'est-ce qu'elle est bonne ta soupe. Merci beaucoup. Après, il dit, dis-moi, le poisson que tu fais pour Shabbat, elle lui amène encore une tranche de pain et de l'eau. Il lui dit, ah, qu'est-ce qu'il est extraordinaire ton poisson. Alors quelqu'un qui lit ça, il dit, c'est un fou celui-là, c'est un imbécile. Il se moque de nous. Rabbeinu dit, non, c'est toi l'imbécile. Lui, il a compris. Lui, il a compris que ce qui compte, c'est pas ce qu'il a dans l'assiette, c'est ce qu'il a dans la tête. Si lui, maintenant, dans la tête, il mange du poisson, Et ben il a mangé du poisson. Et il est heureux comme s'il avait mangé du poisson. Et le poisson, il sert à rien. Ce que le poisson doit t'amener, c'est du bonheur d'avoir mangé. Il y a des gens, ils vont dans les meilleurs restaurants, ils payent 500 shekels, il n'aime pas sa femme en face de lui, et il veut même pas être en face d'elle, et tout ce qu'il pense, c'est une autre femme, là, Léno, et le gars, il est en train de faire un guinam pour lui. Il est dans le meilleur restaurant de Los Angeles, il est en vue sur, je sais pas moi, la vallée, ce que tu veux, il a payé 5 000 dollars sans arrêt, et ça vaut rien. Et l'autre, il est tranquille avec son pain et son truc, avec sa femme, ils sont heureux, ils sont bien, ils sont en harmonie, et il est dans le top du top, il n'y a pas besoin de reste. Ça veut dire que les gens, ils ont pas compris la différence entre la bracha et la soi-disant réussite. La réussite, c'est extérieur. La bracha, c'est intérieur. C'est ce que tu ressens à l'intérieur. Tu peux avoir encore une fois, tu vois des enfants qui peut-être ont moins, d'ailleurs, la Torah nous dit, le Rav Ovadia disait toujours ça. Il disait, la Torah, elle dit, Rav Ovadia lui-même, c'était un enfant de ça. Et la Torah, elle dit, il faut faire attention aux enfants des pauvres. Un pauvre, ça veut dire peut-être dans l'argent ou même dans le matzav, la difficulté. Les enfants qui ont connu la difficulté. Pourquoi ? Il dit parce que ces enfants-là, ils réussiront. Les enfants qui ont connu la difficulté, ils réussiront. Pourquoi ? Parce qu'ils ont été éprouvés dans leur enfance et ça leur a donné des forces, des cocottes pour pousser. Là où ils vont aller, ils vont réussir. Si c'est dans la Torah, ils réussiront dans la Torah. On va dire, il est très très pauvre. Si c'est dans le business, ils vont réussir dans le business. Tu vois, les Tunisiens, moi, je connais des Tunisiens, les Tunisiens, ils ont beaucoup souffert. Ils sont sortis une main devant, une main derrière. Moi, je connais dans la famille des Tunisiens. Il m'a dit, moi, quand je suis arrivé en France, j'ai dormi dans les cages d'escalier. Pendant des mois, je dormais dans les cages d'escalier. Aujourd'hui, là, il a 4, 5, 6 appartements à Paris. Je veux dire, il a réussi. Comment il a fait? Je sais pas. Mais ça, il a acheté, il a vendu, il a acheté, il a vendu. Je sais ce qu'il a fait. À la fin de la journée, il a réussi. Ça veut dire que les gens qui ont, ils ont souffert. Ouais, exactement. J'ai cherché. J'ai trouvé. C'est parce que j'ai cherché. Tu peux le croire. Tu peux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que alors le tam, il a cette force-là, la plus grande qualité du tam, c'est qu'il sait mentir au yetzer. Ça veut dire en vérité, toute la souffrance, tout le chamal, il t'a mal parlé, pourquoi tu n'as pas d'argent, ça c'est pas une réalité, c'est que du yetzer. En vérité, un homme, il doit être capable à tel point de se mentir sur sa réalité. Et s'il est capable de se mentir sur sa réalité, en vérité, il se dit la vérité. Parce que Hachem, il t'aime. Et il fait ton tikkun. Il est en train de te donner le meilleur pour toi. Ah, mais ça n'a pas le goût du meilleur. Alors change le goût. Parce que c'est le meilleur. Si c'est pour Hachem, c'est le meilleur. Alors pour toi aussi, t'as le meilleur. Ah, mais ça n'a pas le goût du meilleur. Ça a le goût du sable. Alors change ta tête. Fais que ça soit le goût du meilleur. Et quand tu arrives à faire ça, tu vis dans une réalité qui est complètement différente, qui est une vraie réalité. Et ça amène la bracha. Et en plus de ça, Rabbeinu dit que quelqu'un qui pense positivement, il attire le positif. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, la pensée positive que ce qu'il mange, c'est du poisson, et ben le gars, il a fini vice-roi. Il est devenu vice-roi à la fin. Et il mangeait les meilleurs poissons du monde. C'est-à-dire qu'en réalité, le fait de mentir au Yetzirah, Hachem, il a dit quoi? Donc ça veut dire que cette souffrance-là, elle est plus chayaf à toi. Puisqu'elle ne te fait pas souffrir, tu n'as pas besoin de ça. Tu as tellement des mounas, tu n'as pas besoin de cette souffrance-là. Tu viens de réparer par la réussite de l'épreuve. Donc ben, ça y est, c'est bon, tu n'as plus besoin. La façon la plus rapide et efficace de s'éloigner de la souffrance, c'est de vivre la souffrance comme si ça n'en était pas une. C'est de faire semblant que ce ne soit pas une souffrance. C'est la façon la plus efficace de s'en éloigner complètement et de réparer la souffrance. Et c'est vrai pour tout. Et ça, c'est la qualité du tam. Le tam, il prend tout comme il avait. Je vais vous dire les mots de Rabbeinu. On n'a pas dit un seul mot, mais regardez comment il définit le tam. Il a un mot, enfin une phrase, au minhago. Sa coutume au tam, haya shehaya tamid besimcha gdola, c'est qu'il était tout le temps heureux. Mais quoi? Mais sa vie, elle est comme tout le monde a des difficultés. Non, mais lui, il était tout le temps heureux. Mais il mange pas, il a pas d'argent, il fait des choisir à trois coins, sa femme, elle lui dit pourquoi tu vends pas comme les autres. Donc il a la même vie que tout le monde. Non, mais lui, il a choisi d'être heureux. C'est-à-dire qu'il, c'est pas qu'il a attendu d'être heureux. Non, il a choisi. Moi, je suis heureux, je m'en fiche du reste. Quel que soit ce qui arrive dans ma vie, je suis heureux. Quelqu'un qui fait ça, il finit vice-roi du monde. C'était le chiant de ce soir. Khazakoubo.